And now the end is near, and so I face the final curtain.
Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid, comme d'habitude.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Brewing Books. Aujourd'hui, c'est Axel, Eléa et moi-même, Philomène, qui vous emmenons en voyage dans le monde de la traduction littéraire. Dans un premier temps, c'est Eléa qui va vous parler du processus de traduction du point de vue de l'éditeur. Ensuite, c'est Axel qui va prendre la parole afin de poser quelques questions à notre invitée du jour, Élise Nicoli, qui est traductrice de l'allemand et de l'anglais.
Je vais vous présenter le processus de traduction. Alors, pour mémoire, un livre, c'est un auteur et un éditeur qui signent un contrat. Il y a donc une acquisition des droits de propriété intellectuelle, ce qui certifie que l'œuvre, elle appartient à la maison d'édition. Et donc, elle va impliquer un engagement à créer le livre et qui va finir acheté en librairie par nos clients, ce qui permet de rémunérer l'auteur ainsi que la maison d'édition. Mais alors, pourquoi vendre des droits de traduction ? Bien tout simplement parce que ça permet d'augmenter en rentabilité pour l'auteur et l'éditeur, parce que ça induit une source de revenus supplémentaire, car il y a plus de ventes, puisque le public est plus large, il est plus important et il va s'exporter dans un autre pays. Donc, quelles sont les différentes étapes de vente de droits de traduction ? Tout d'abord, il faut savoir que c'est indiqué dans le contrat origine signé entre auteur et éditeur qu'il peut traduire ou faire traduire l'œuvre dans les langues et les pays qu'il souhaite. Mais alors, comment ça se passe ? Tout d'abord, l'éditeur, c'est l'ayant droit original, c'est-à-dire qu'il détient les droits de l'œuvre de l'auteur. Il va faire appel à un co-agent pour vendre les droits étrangers. Pendant ce temps, il y a un scout qui fait de la veille, qui cherche des textes dans la maison d'édition embauchée par l'éditeur étranger. Et quand le livre est intéressant, jugé par le scout, il va le signaler à l'éditeur étranger qui, lui, va acquérir les droits auprès de l'ayant droit original, donc l'éditeur original. Et l'éditeur étranger, il va ensuite faire appel à un traducteur pour traduire l'œuvre qu'il vient d'acquérir. Il faut savoir qu'un traducteur, en France, est considéré comme un auteur, donc c'est-à-dire qu'il est rémunéré avec la vente du livre, ainsi qu'une avance qu'il a perçue, au même titre que l'auteur d'origine, mais avec un pourcentage qui est quand même moindre.
Et donc on va passer maintenant à la partie sur l'interview d'Élise Nicoli, traductrice de l'allemand et de l'anglais.
Est-ce que tu pourrais te présenter, toi, et un peu ton parcours en tant que traductrice ?
Avec plaisir. Alors, je m'appelle Élise, donc j'ai fait la formation IUT Métiers du Livre en 2013-2015. Après ça, j'ai fait une licence en édition, donc l'année juste après. Et après ça, j'ai fait un master métier de l'édition pendant 2 ans à Strasbourg. Et après ça, j'ai travaillé pendant 5 ans dans une maison d'édition à Montréal, parce qu'en fait, il fallait... Il y avait un stage de 6 mois qui venait valider le master, donc c'est ça. Et entre-temps, mon conjoint avait trouvé un boulot à Montréal, donc on s'était dit, bon, bah, parfait, on va s'installer là-bas. Puis moi, c'est ça. Puis moi, j'avoue que j'avais pas tellement envie de m'installer à Paris, parce que bon, bah, voilà, c'est vrai qu'en France, c'est très centralisé là-bas. Donc bon, c'était l'occasion. J'ai trouvé ce stage dans une maison d'édition. C'est la plus grosse maison d'édition du Québec, en fait, qui s'appelle Les Éditions de l'Homme. Okay. Qui fait surtout de la non-fiction, mais petit à petit, c'était ouvert à la fiction, donc ça, c'était cool. Et en fait, finalement, bon, bah, ce stage de 6 mois s'est transformé en remplacement de congé maternité, puis en contrat, oui, c'est ça, puis en CDI, exactement, c'est ça. Et puis après, bon, au bout de 5 ans à Montréal, après 2 ans de pandémie, où ça a été très compliqué, surtout au Québec, mon conjoint qui avait changé de boîte entre-temps, avait eu une opportunité, en fait, sa boîte ouvrait une branche en France, donc lui on dit, est-ce que ça te tenterait de t'installer en France ? Puis c'est vrai qu'on y pensait depuis un moment, donc on s'est dit, bon, bah, c'est parti, sachant qu'on est d'Aix tous les deux, on est d'Aix en Provence tous les deux, donc on s'était dit, on va revenir ici, sachant qu'à Aix, bah, dans le monde de l'édition, des opportunités, il n'y en a pas tellement, donc au début, on s'était dit, bon, on revient, puis pour moi, on verra bien, et tout ça. Et puis finalement, en fait, j'avais des contacts dans l'édition que j'avais eu pendant mon boulot pendant 5 ans à Montréal, parce que j'étais aux droits étrangers, en fait. Okay. C'est ça que j'ai pas précisé. J'étais aux droits étrangers, donc je m'occupais de tout ce qui était les salons, donc surtout Londres et Francfort, parce que c'était les deux plus gros. Tout ce qui était la prospection pour vendre les droits de nos livres à l'étranger, ou au contraire, acquérir des droits. Donc quand je dis des droits, c'est des droits de traduction, donc pour... après ça, le traduire en langue française et le vendre sur le marché québécois. Et après ça, donc j'avais encore des contacts, j'avais pas mal de contacts, notamment chez Hachette, avec qui j'avais déjà bossé plusieurs fois en collaboration. Puis, en fait, bon, comme j'étais revenue, que j'avais du temps, et que je m'étais dit, bon, je vais voir ce qui m'arrive, je suis pas pressée. En fait, j'ai une de mes collègues chez Hachette qui m'a dit, mais tu travailles plus aux éditions de l'Homme? J'ai dit, non, je suis rentrée en France. Elle m'a dit, ah, ben, écoute, je cherche des lectrices. Ça a commencé comme ça. Elle dit, je cherche des lectrices pour, voilà, tout bêtement, je t'envoie des manuscrits, tu les lis, tu me dis ce que t'en penses, et puis après nous on les publie pas, donc ok, très bien. Donc quelques petites lectures, j'avais du temps devant moi, donc des lectures, j'ai eu quelques contrats d'édition après ça, voilà, j'ai eu plein de petits trucs comme ça. Je me suis élargie à plusieurs clients, parce que bon, bah, d'un coup j'ai pensé à d'autres contacts que j'avais eu en disant, ah, au fait, je travaille de chez moi si t'as besoin, tout ça. Donc ça a commencé tout doucement comme ça, ça a commencé tranquillement, pas vite. Et en fait, un jour, j'ai lu un roman en allemand, donc de ma collègue chez Hachette, et j'ai eu un coup de foudre pour ce roman. Ah, j'ai eu un coup de foudre pour ce roman, et je lui ai écrit, je lui ai dit, Isabelle, elle le savait, hein, je lui ai pas menti, hein, elle le savait. Je lui ai dit, bon, tu sais que je suis pas du tout traductrice, mais est-ce que je peux essayer de le traduire? Genre, je veux voir, ça se trouve, ça va pas du tout me plaire, ça se trouve, oui, c'est ça, genre complètement, ça se trouve, je me rends compte que, oh là là, non, c'est pas du tout à ma portée, parce que parler une langue et la traduire dans un sens littéraire, c'est très différent. Vous pouvez parler une langue parfaitement, après ça, avoir la patte littéraire, c'est deux choses très différentes. Alors elle m'avait dit, ah, mais oui, elle m'avait même dit un truc genre, oh, bah, ça m'aurait même déçu que tu me le demandes pas. Donc j'ai dit, bon, bah, écoute, allons-y. Mais elle me dit, bon, voilà, on verra bien. Je l'ai fait, donc elle m'a autorisé à me prêter à l'exercice, mais je me suis pas vraiment voilé la face non plus. Je me suis dit, bon, allez, c'est la première fois, mais je me fais les dents dessus. Bon, j'ai pas eu ce premier contrat, ça aurait été quand même un sacré coup de chance. Je l'ai pas eu, mais ça a été, en fait, entre-temps, j'étais allée à Paris pour voir des copines, et puis en fait, j'avais dit à Isabelle, ah, bah, viens, on déjeune et tout. Puis en fait, pendant ce déjeuner, donc elle m'a dit, bon, on va prendre une autre traduction, tout ça, mais elle m'avait expliqué, on avait eu une conversation vraiment très constructive sur les erreurs que j'avais faites, en fait. Donc j'avais dit, ok, très bien, je le note dans un coin de ma tête. Deuxième essai sur un roman en anglais, je l'ai pas non plus, bon. Elle me réexplique, pareil, je dis, ok, c'est bon. Jamais 203, le troisième arrive. Je dis, ok, je sais ce qu'il ne faut pas que je fasse. Bingo, je l'ai eu. Donc, ça a été, non, mais si vous voulez, je ne l'ai pas du tout vécu. Oui. Ça ne m'a pas du tout découragée, en fait, parce que déjà, je me suis trouvé un intérêt, voire même presque une passion dans quelque chose. Vraiment, ça m'avait jamais effleuré l'esprit. J'en avais fait un petit peu de la traduction, mais genre en cours de langue, quoi. Oui. Enfin, vraiment, jamais sur des... Et bon, je sais pas, et d'un coup, ça m'a... Et puis j'ai eu un flash de... Ah, mais ouais, mais c'est ça que je voudrais faire. Puis bon, voilà, donc du coup, l'été dernier, j'ai signé mon tout premier contrat de traduction avec Hachette, donc un roman graphique, en librairie le 22 mai, pour ceux que ça intéresse, Jordan et Marshmallow, voilà. Mais non, c'est vraiment un... Je me suis découvert là-dedans, mais vraiment complètement par hasard, sans aucune autre formation que... La langue, ouais, c'est ça, exactement. Mais la langue, des essais, des tests, des ratés, et une passion pour la lecture et pour la littérature, en fait, tout bêtement. Et du coup, on est là. Et me voilà.
Qu'est-ce qui, pour vous, définit vraiment le métier de traducteur?
Ah, bah, c'est la patte littéraire, vraiment. Vraiment. Il y a une sensibilité à avoir sur le texte. C'est pas uniquement savoir traduire. Parce que ça, à la limite, tout le monde pourrait le faire. Traduire, comprendre le sens d'un texte, dire « bah oui, ça parle de ça ». Ça, bon, bah, vous maîtrisez une langue un tout petit peu, vous pouvez le faire. Le transformer en un roman... C'est complètement différent. Et d'ailleurs, c'est pas le cas partout, mais en France, les traducteurs sont au même régime que les auteurs. Donc, okay. Oui. Donc il y a le régime très spécial qui s'appelle le régime des artistes-auteurs. Les traducteurs sont inclus là-dedans. Parce qu'en France, en fait, une traduction est considérée comme un travail original. En fait, vous avez beau traduire un livre qui n'est pas le vôtre, qui n'est pas votre histoire, qui appartient à quelqu'un d'autre, qui a été écrit par quelqu'un d'autre, le travail que vous faites dessus demande une créativité telle
que c'est considéré,
comme un... Et d'ailleurs, les traducteurs, et c'est pas le cas, vous voyez, par exemple, quand j'ai travaillé au Québec, c'est pas le cas, là-bas. Ah ouais. Un traducteur, on va lui dire, bon, traduis-moi tel livre, je te donne 2 000 $, mettons. Ouais. Voilà, c'est une somme forfaitaire, tu toucheras pas plus.
Okay.
Moi, sur mes traductions, j'ai des droits d'auteur. Okay. Alors qu'ils sont moins importantes que les droits d'auteur, que les auteurs. Ouais. Mais moi, j'ai des droits d'auteur sur les livres que je traduis. Donc ça, je trouve ça... Je suis vraiment contente que ça soit reconnu parce que, en fait, quand vous êtes dedans, et je pense que c'est un peu une idée un peu reçue, mais on en reparlera plus tard, mais c'est une idée un peu reçue de ouais, ça va, tu traduis, bon, t'as les mots bout à bout, tu le mets en français. Non, non.
C'est un peu complexe.
Moi, vous pouvez me croire que. Ah oui, oui. Vous pouvez me croire que parfois je passe des heures sur une phrase à me dire attends, mais ça marche pas, parce que surtout en anglais en fait, où on peut dire vraiment beaucoup énormément de choses en peu de mots.
Oui.
C'est pas du tout le cas du français. C'est pas du tout le cas du français. En français, on aime bien faire des élongations et se perdre un peu en détail. Donc bon, faut pas faire ça non plus, mais ça demande en fait de complètement retourner la phrase dans une langue complètement différente en fait. Donc ça, c'est pour moi la définition du métier de traducteur, c'est comprendre la patte de ce que vous lisez, parce qu'évidemment, chaque livre a son ambiance, a son style, a son auteur. Comprendre ça et réussir à le retranscrire dans une autre langue, en fait. Et ça, je trouve ça passionnant. Ça, vraiment, ça fait toutes les difficultés, mais en même temps, toute la beauté du métier. Absolument, ouais.
Ok. Vous avez un peu déjà répondu à qu'est-ce qui vous a motivé à vous tourner du coup vers la traduction. Donc, c'est la passion un livre et l'amour pour un livre.
Complètement le hasard, en fait. Mais je me suis dit que pour le cas de ce coup de cœur-là en allemand, en fait, je me suis dit, mais lire un livre, avoir un coup de cœur pour ce livre et se dire... J'ai poussé le coup de cœur jusqu'à le retraduire. Oh, je me suis dit, oh, mais ça doit être génial. En fait, c'est ça en fait, qui m'a poussée. Je me dis, mais je suis sûre que ça me plairait. Donc, je suis vraiment contente d'avoir... J'ai été très chanceuse, en fait, qu'on m'ait donné ma chance.
Les outils aussi pour...
Et qu'on n'ait pas regardé au juste... Oh, mais t'as pas de formation de traductrice. Oh, ouais. Non, un peu histoire de... Oh, mais me fais pas perdre mon temps. Non, non. Et ma collègue là qui m'a ouvert les portes à ce monde de traduction, à aucun moment j'ai eu l'impression que je lui faisais perdre son temps, mais tu m'envoies ça, non, à aucun moment. Elle a été super patiente, elle m'a appris à être patiente avec moi-même aussi, parce que ça demande quand même une certaine humilité, une certaine bienveillance envers soi-même, et pas se dire bon bah tu sais quoi, laisse tomber, j'ai pas réussi du premier coup, je suis nulle, ça,
j'y
non c'est la plus grande leçon d'humilité de ma vie. Mais en même temps, c'est ça qui m'a permis d'avancer. Puis j'ai été très contente de m'y tenir, parce que en fait, à chaque fois que je tombais puis que je recommençais, je me disais ok, je sais ce qui m'a fait tomber la fois d'avant. Je ne leur ferai pas cette fois-ci. J'ai peut-être tombé pour quelque chose de complètement différent, mais ça ne me refera pas tomber la fois d'après. Donc, au final, ça a été une...
Et on apprend toujours des erreurs, etc.
Exactement. Ça a été un coup de cœur qui a mené à une idée, qui a mené à une opportunité, qui a mené à des échecs, des tentatives, jusqu'à ce que ça marche, en fait.
Ok. Du coup, est-ce que vous choisissez un peu les livres que vous traduisez?
Alors,
ou est-ce
non.
que voilà, vous... Parce que sinon, ça aurait été comment vous aimeriez au moins les choisir si vous aviez le choix? Comment?
Alors,
vous tourneriez plutôt?
C'est ça. Non, malheureusement, c'est pas dans ce sens-là que ça marche. C'est pas moi. Sinon, je traduirais tout le temps et j'aurais tout le temps plein de traductions. Ça serait super. Non, c'est pas dans ce sens-là que ça marche. Alors, généralement, bon, chaque maison d'édition a ses subtilités de sélection, tout ça. Par exemple, dans le cas d'Hachette, pour qui là, je viens de rendre un deuxième, donc un autre roman en allemand, qui n'est pas le coup de cœur original, mais un autre gros coup de cœur, donc je suis tout aussi contente. Par exemple, donc ma collègue chez Hachette, elle, ce qu'elle fait généralement, on a un peu notre processus un peu bien à nous, entre guillemets, c'est-à-dire que elle m'envoie des romans en anglais ou en allemand à évaluer, donc vraiment en mode voilà, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que ça vaudrait le coup, exactement, en tant que lectrice, complètement. Et après ça, éventuellement, si elle décide de le faire, si elle réussit à avoir les droits, tout ça, elle me dit bah, est-ce que ça te tente de faire un essai. Généralement, je lui envoie les 2-3 premiers chapitres, voilà, et puis après ça, elle me dit bah oui, c'est bon, tu l'as, ou bah non, on passe à un autre, et puis bon, voilà. Donc ça, c'est comme ça que ça fonctionne avec Hachette. Mais par exemple, là, avec Bragelonne, pour qui je suis en train de finaliser une traduction en anglais, eux, ils ont une façon complètement différente de faire. C'est-à-dire que ils avaient, je les avais démarchés, j'avais envoyé mon CV une fois en disant « bon, oui. on verra si ça tombe dans la boîte de quelqu'un ». Et en fait, la directrice éditoriale, très gentiment, m'a répondu un jour en me disant « ah bah écoutez, oui, bah, je vous mets à l'essai, elle m'avait envoyé un bout de texte, donc bon ». Ok, puis en fait, moi, je m'attendais à ce que ce soit le texte qu'il fallait traduire, puis pas du tout, c'était juste pour voir si je savais traduire complètement. Et en fait, là, il y a quelques mois, elle m'a envoyé un mail, elle m'a dit « Bonjour Élise, bon, j'ai ça à traduire, ça vous tente ?» Bah, j'ai dit « Bah, écoutez, je vais prendre 2-3 jours pour le lire, puis ça m'a plu. » Je dis « Bah oui, elle m'a dit « Bon, vous l'avez. »
voilà.
Donc ça fonctionne comme ça, mais il y a toujours quand même, quelle que soit la maison d'édition, il y a toujours une partie test quand même. Oui. Parce que, évidemment, il faut dire, l'engagement de temps, d'argent, de travail que ça prend, il faut être sûr ou quasiment de pas se tromper sur le choix de la personne avec qui on collabore, évidemment. Donc, non, c'est ça. C'est pas moi qui choisis. Par contre, là où moi je suis vraiment... là où moi ce que je traduis vraiment, ça, c'est mon domaine, c'est le young adult et le fantastique et les romances. Très honnêtement, alors je suis complètement libre de refuser une traduction si jamais je suis occupée, si jamais ça me tente pas, mais c'est ça. C'est-à-dire si jamais je pense un jour on m'approche avec une traduction avec de la non-fiction par exemple, bon...
Oui.
Ça...
L'intérêt, alors, c'est peut-être moins
présent. D'abord, ça demande, souvent la non-fiction, c'est quand même sur des sujets très précis, donc ça demande quand même une maîtrise d'un certain domaine, d'un certain vocabulaire que j'ai pas forcément. Et puis ensuite, il y a quand même une question d'intérêt. Enfin, je pense que quand vous lisez un roman où la traduction s'est pas très bien passée, oui, je pense que vous le sentez d'une certaine façon. Enfin,
ça se ressent en tout cas dans la...
Il faut qu'il y ait un attachement au texte. Il faut qu'il y ait un attachement au texte. Alors bon, ça après c'est peut-être uniquement dans un monde très idéal où le traducteur ne traduit que ce qu'il aime, oui, et tout ça. Je vous parle pas de tout ce qui est... la traduction pour des besoins, parce que c'est un métier, donc il faut, oui, bien gagner sa vie. Moi, en tout cas, j'ai quand même cette chance d'avoir approché et de n'avoir approché que des maisons d'édition qui font ce qui est mon domaine d'intérêt. Donc après, évidemment, si un jour on arrive avec une fiction... très contemporaine, très réaliste, et que j'ai quand même un coup de cœur dessus, je serais ravie de me prêter à l'exercice et de me dire, bah, tu sais quoi, j'y vais. Et puis en plus, ça me donne un pied supplémentaire dans un autre domaine, donc ça serait super intéressant.
Ça permet d'avoir une autre expérience et de pouvoir se rendre compte que bah, peut-être certaines choses dans lesquelles vous êtes plus performante comparées à d'autres.
C'est ça. Et puis de toute façon, je pense aussi que j'ai le recul et l'humilité de dire... C'est pas pour moi. Parce que si c'est pour me créer... Parce que c'est des mois, hein, de traduction. C'est pour me créer des mois de stress, à me dire, oh là là, c'est pas bon, ça marche pas. Pff, non, oui, je vaut mieux que je passe à côté. Hein, c'est... je rends service à tout le monde. C'est
coup,
ça, exactement.
Pour vous, quel est le plus important en tant que traductrice, du coup, en termes de métier, donc vous avez déjà mentionné plutôt la passion, oui, l'intérêt pour la chose, mais est-ce que c'est avoir une bonne qualité, une bonne maîtrise la langue, ou est-ce que c'est pas forcément plus important, il y a autre chose?
Alors la maîtrise de la langue, elle est obligatoire, hein, de toute façon, ça, et puis la maîtrise de la langue est plus les subtilités aussi de la langue, parce que connaître, pas uniquement la façon de lire, pas connaître uniquement la langue littéraire, mais vraiment la langue parlée, la langue populaire, j'ai envie de dire, parce que là, moi, dans le roman que j'ai traduit en allemand, bon, j'ai beau en avoir fait toute ma vie, avoir habité en Allemagne et tout, je suis déjà tombée sur des expressions de me dire, hein, qu'est-ce que c'est de buter sur un mot et de dire, ah mais attends, mais ça je le connais pas.
Bon,
heureusement, j'ai plein de copines allemandes à qui je peux dire, écoute, j'ai jamais vu ce mot-là de ma vie, qu'est-ce que ça veut dire, je comprends rien, enfin vraiment. Je vais vous donner une toute petite anecdote rigolote, c'est justement dans ce roman-là, à un moment, la phrase, c'était... Bon, je vous la répète pas en allemand, mais dans la phrase, il y avait le mot « flamme », comme la flamme, oui, en français, donc F-L-A-2-M-E. Puis je vois ça, donc... Et en fait, « flamme » en allemand, ça se dit aussi, oui, comme ça. Donc là, je regarde, je me dis, mais... Je me dis, pourquoi il y a une flamme ? Je comprenais pas, en fait, ce que le mot faisait, ce que ça faisait dans... Je me dis, mais j'ai pas compris. Bah, pourtant, la phrase n'était pas très compliquée. Je dis, une flamme ? Et je cherche, je fais des recherches. Non, une flamme. Je me dis, mais non, mais c'est pas possible. Je me dis, c'est une façon de dire, je sais pas, la flamme dans les yeux. Donc au début, j'avais écrit un truc comme ça, genre je suis concentrée sur la flamme dans ses yeux. Mais je me dis, non, mais je suis sûre que c'est pas ça. Et j'avais vraiment un feeling. Et je demande à une amie allemande, je lui dis, Julia, je suis sûre que c'est pas ça. Elle me dit, mais la flamme en allemand, c'est la meuf. Genre sa meuf.
Ah,
sa copine, quoi, en fait.
Effectivement, oh, ça porte à confusion.
Et je lui dis, mais comment ça, sa copine ? Elle me dit, non, parce qu'elle me dit, moi, tu vois, par exemple, avec mon copain, je suis pas sa flamme, parce que ça fait trop longtemps qu'on est ensemble. Mmh. Elle dit, mais une fille que tu vois comme ça, vite fait, oui, c'est ta flamme. Je dis, ah ouais, ok, d'accord. Donc c'est pas juste ta copine, c'est genre la meuf que tu vois comme c'est ça, là, vite oui. fait, avec qui tu sors, mais c'est pas encore officiel. Et j'étais là, ah la vache. Et c'est la première fois de ma vie, je sais qu'on va en venir dans les questions plus tard, mais. Que j'ai fait appel à ChatGPT en lui disant qu'est-ce que c'est. Et ben même lui il a pas su me dire. Il m'a dit oui c'est la flamme. J'ai dit non mais c'est pas possible. Donc bon bref, donc tout ça pour dire que j'ai pas l'impression que le l'IA ça soit tant une menace pour l'instant, parce que lui il aurait mis flamme, la flamèche.
La flamme du feu.
La flamme du feu.
Quelle est la journée type d'une traductrice ou d'un traducteur ? Comment elle s'organise ?
Eh ben, alors bon, moi je travaille de chez moi, évidemment, c'est mon boulot à plein temps, hein, parce que ça vous prend votre temps à plein temps, hein. C'est des heures de traduction, c'est une organisation en rétro-planning, hein, parce que quand vous signez votre contrat avec la maison d'édition, bah, y a une date de rendu, hein, évidemment, sur votre contrat. Alors, vous n'êtes pas obligé de rendre à cette date, moi je rends toujours un tout petit peu d'avance, d'ailleurs ça arrange mes collègues, la date elle est plus là pour dire s'il te plaît dépasse pas cette date, parce qu'à côté de ça c'est pas juste, il y a la traduction, oui. Puis il faut que les éditrices relisent, corrigent, toutes les traductions sont soumises à la traductrice, moi il faut à chaque fois que mes collègues m'envoient le fichier en disant voilà tout ce qu'on a modifié, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que t'es d'accord, parce que comme pour un auteur, toutes les modifications sont soumises à la validation du traducteur, et puis accessoirement bah, si jamais il y a quelque chose qui marche pas avec la langue, tu vas dire bah non parce que dans la traduction originale c'est ça, donc ça marche pas, enfin bon voilà. Donc il y a vraiment une foule d'étapes qui suivent en fait le rendu du manuscrit. Donc moi je fais vraiment des heures, j'essaye de faire vraiment au maximum des heures de bureau. C'est-à-dire que bon, je travaille de chez moi, j'ai un étage aménagé avec mon bureau, avec tout ça, j'ai mon ordi, j'ai tout ce qu'il me faut. Je me lève le matin, je me fais mon café, j'y vais, s'il y a besoin, je relis des passages de la veille ou au bout d'un moment, je me dis, bon, là, j'ai un peu la tête comme un panier, donc je laisse tomber, je reviendrai dessus demain, une fois que j'aurai l'esprit un peu plus clair. Et puis, généralement, j'essaye de m'arrêter vers 18h. Je déborde toujours sur les 18h, surtout quand c'est... quand la date approche, parce que je suis dans je fais tout ce qui est la relecture, remodifier des petits trucs, relire, m'assurer que je suis pas passée à côté du sens de certaines phrases, que j'ai pas oublié des petits passages, des petits mots, des petites phrases, des petits trucs comme ça. Mais c'est vraiment j'ai l'avantage de travailler à mon compte, donc je m'organise comme je veux,
il y a pas de contraintes.
Non, pas du tout. Quand mes collègues m'écrivent, si je leur réponds le lendemain ou si je leur réponds en plein milieu de la nuit, d'ailleurs il y en a beaucoup qui travaillent, qui n'ont pas beaucoup d'horaires comme moi non plus, ça choque personne et puis on va jamais me le reprocher, parce que c'est vraiment, je suis pas une employée, je travaille à contrat. Moi c'est ce que j'essaye de faire, mais c'est vrai que ben, on n'a pas toujours des week-ends, on n'a pas toujours de temps libre, on n'a pas... Mais je n'échangerai pas ça pour un retour à une vie de bureau.
Oui.
Vraiment. Là, je me suis découvert là-dedans et moi, là, maintenant, j'ai qu'un seul souhait, c'est que ça s'enchaîne encore et encore. Ah ouais, complètement.
Ok. Quels sont les outils que tu utilises quotidiennement, ou pas forcément, mais les outils
mon ordinateur, évidemment, hein, avec là où j'ai tous mes mails, j'ai mes dossiers pro, donc j'ai tout là-dedans. J'utilise Antidote, surtout en fin en relecture finale, en fait. Okay. Hein, je passe toujours un coup. Bon, de toute façon, c'est toujours relu hein, derrière. Hein, c'est pas le manuscrit, une fois qu'il est rendu, il n'est pas final et prêt à être... il est relu, donc il y a plusieurs paires d'yeux qui vont passer dessus pour dire « Ah, ben là, il y avait une petite faute, un petit machin. » Puis de toute façon, quand vous avez passé... 2-3 mois sur un texte, au bout d'un moment, vous voyez plus rien. Donc, mais j'utilise toujours Antidote. Je le passe toujours par acquis de conscience. Pardon, je revérifie toujours parce que je le trouve plutôt efficace pour noter quand vous avez oublié un petit mot. Parce qu'il n'est pas toujours très pertinent sur la correction. Donc, moi, je vérifie toujours ce qu'il me propose. Par contre, il est plutôt efficace pour dire, là, par exemple, t'as inversé deux mots, il manque un mot. Bon, voilà. Mais c'est ça, bon voilà, je fais des recherches si jamais j'ai un doute sur un orthographe, sur quelque chose. J'ai beaucoup de dictionnaires en ligne pour la langue, si jamais j'ai un doute sur un mot, si jamais tout ça. Mais bon, ça demande pas un matériel dingue. Déjà avec un ordinateur,
il y a déjà
bien de quoi faire. Oui.
Qui est pris dans l'ordinateur. C'est ça. Pour les néologismes ou les mots inventés par l'auteur original, comment vous faites ? Comment vous abordez le...
Ça dépend honnêtement. Alors, moi, j'essaye de me rapprocher le plus possible du sens, en fait, que l'auteur a visé. Que vraiment l'auteur a voulu viser. Là, par exemple, dans le roman que je traduis en anglais, enfin de l'anglais vers le français, on est dans un monde de sorcières, donc il y a un coven et tout ça, voilà. Et il y avait entre autres quelque chose qui s'appelait, donc parce qu'il y a un moment qui disent que bon voilà, il y a une nouvelle sorcière doit se lier à son coven, donc il y a un bal et ils appellent ça le Covenant Ball. Bon, Covenant Ball, je me dis bon, le bal du coven, oh, ça fait répétition, tout ça, je me dis bon. Et généralement, dans ces moments-là, alors on n'est pas sur une invention de mots vraiment, hein, c'est pas comme avec, par exemple, je pense que le traducteur d'Harry Potter, quand il est tombé sur Poudlard la première fois, il a dû dire quoi ? Enfin, sur Hogwarts, du coup, il a dû dire quoi ? Bon, mais là, dans ce cas-là, je me suis dit, ok, bon, bal du coven, c'est moche, ça marche pas, ça fait répétition, mais je me suis dit, bon, étant donné que... J'ai beaucoup pensé au contexte. Je me suis dit, bon, étant donné que c'est un bal qui marque une appartenance à un coven, c'est très important, tout ça, je me dis, pourquoi pas le bal du pacte ? Parce que j'ai repensé, en fait, à ce... Bon, c'est pas du tout un monde de sorcières, genre maléfique et tout ça, pas du tout, mais je me suis dit, ouais, mais il y avait beaucoup cette idée que les sorcières, elles signaient un pacte avec le diable, elles mettaient leur nom dans le livre du diable. Donc je me suis dit, pourquoi pas le bal du pacte pour faire référence à ça, justement, tout ça. Donc après, je le propose toujours à mon éditrice, et puis éventuellement, on en rediscute ensemble et tout ça, mais j'aime bien réfléchir et expliquer ce qui m'a amené à ce terme-là, parce que ça donne vraiment un sens, ça lui donne une certaine puissance, et puis ça me permet aussi de l'expliquer à mon éditrice, quoi, lui dire que voilà, ça sort pas de nulle part, et que ça colle à l'univers aussi. Alors je suis jamais tombée sur des mots vraiment inventés, ça m'est pas encore arrivé, mais je pense que si je tombais vraiment sur un mot qui n'existe pas du tout, je raisonnerais comme ça, oui, complètement.
Et donc c'est une recherche autour de la sémantique, mais aussi du coup autour du contexte, voilà. Fallait utiliser le mot.
Exactement. Puis j'aime bien faire des recherches de voilà, s'il y a un historique qui est lié à ce mot, là, comme avec l'histoire des sorcières qui signent dans le livre du diable et tout ça, j'aime bien faire des recherches là-dedans. Parce qu'éventuellement, en plus, parfois, on tombe sur de surprise de dire « Ah tiens, il y avait tel terme qui était utilisé qu'on ne connaît pas forcément, ou alors que ce sont des termes tellement désuets que maintenant, on ne les utilise plus. » Donc, on a des belles surprises et du coup, des idées de temps en temps. Donc ça, j'aime bien m'attarder là-dessus. J'aime pas que ça soit fait par hasard.
C'est très honnête. Quels sont les clichés de votre métier, du coup, auxquels vous faites face régulièrement ou pas forcément, et que vous connaissez
Régulièrement, non, parce que en fait, je travaille avec des gens qui sont dans la littérature comme moi, donc en fait, ils comprennent ma démarche, ils savent ce que... Non, par contre, ce que j'ai déjà entendu, c'est « ça va, tu dis ça en anglais, tu mets en français, c'est bon. » Non, ça, le cliché du « la traduction, c'est trop facile », non. Une fois, on m'a déjà dit « Oh ouais, t'as reçu un truc, il y a combien de pages ?»« Ouais, 3 semaines. »
Oui, bien sûr,
t'as raison. Ah bah si tu veux un truc naze, oui, 3 semaines, je peux. Hein, mais non, ça c'est quelque chose qui est un peu c'est un cliché qui est un peu la dent dure. C'est facile. Mais non, vous pouvez parfaitement maîtriser une langue. Ça fait pas... Tout le monde n'est pas traducteur. Tout le monde peut parfaitement maîtriser une langue. Mais être traducteur, ça demande vraiment un niveau de lecture Et je ne dis pas un niveau de lecture, je ne dis pas qu'il faut lire des livres très soutenus, ce n'est pas du tout ce que je dis, il faut vraiment être un amoureux de la lecture. Il faut avoir cette sensibilité à la lecture, et à tout type de lecture, hein. Je vraiment, que ce soit des trucs super contemporains, super fantastiques, très anciens même, enfin voilà, ça peut être tout et n'importe quoi, mais la lecture, mine de rien... Et vous l'aurez compris, j'ai toujours été une très grande lectrice. Mais la lecture, mine de rien, et je m'en rends compte aujourd'hui. Je m'en étais pas tant rendu compte avant, je pense. Enfin, je savais que c'était là, mais la lecture, mine de rien, ça vous construit une sensibilité créative et artistique qui, quand vous lui laissez la place
de s'exprimer,
c'est fantastique. Ah, mais moi, vraiment, hein. Et c'est pour ça que je dis que je pourrais pas retourner dans une vie de bureau, c'est parce que les 5 ans que j'ai passé à Montréal, ça s'est super bien passé, j'ai eu des collègues fantastiques, puis c'est grâce à ça, hein, aussi accessoirement, oui, que j'en suis là où je suis aujourd'hui, mais il y avait ce côté c'est comme ça qu'on fait, on changera pas. Oh, ouais, ça, quand vous avez un esprit créatif,
c'est
terrible. Vous vous sentez en cage, c'est affreux, alors que là, je pense que moi, le jour où j'ai vraiment ce côté de traduction qui s'est débloqué, c'est le jour où j'ai compris que je pouvais être créative. Oh, justement. Parce que je pense que la première erreur que j'ai faite, c'est de trop calquer le texte. De me dire, mais je ne peux pas prendre de liberté, mais attends, c'est pas mon texte, je ne peux pas faire ce que je veux. Enfin, évidemment qu'il ne faut pas faire ce qu'on veut. Évidemment qu'il ne faut pas transformer le propos. Il faut suivre la trame. Évidemment qu'il ne faut pas transformer le propos. Mais il faut que ça soit beau. Il faut se dire, mais le lecteur, en lisant ça, ça va lui plaire. Enfin, vous voyez,
directement.
Et ça, quand j'ai compris ça, il y a vraiment quelque chose qui s'est débloqué, où j'ai dit, waouh, ok, alors, si je cherchais un endroit où laisser libre cours à ma créativité, c'est là,
c'est
en fait. C'est là, complètement.
Idéal.
Et c'est ça, je pense, que malheureusement, pas tout le monde comprend justement le toute la difficulté, toute la complexité de la traduction. C'est que c'est juste, c'est pas juste parler une langue.
On
prend un mot, c'est ça, on prend un mot en anglais ou en allemand et on donne l'équivalent en français. C'est pas ça du tout. C'est moi avec, et puis comme je disais tout à l'heure avec le fait qu'on pouvait dire beaucoup en anglais avec peu de mots, ce qui n'est pas le cas. Justement, c'est ça qui est beau, c'est qu'on peut prendre des libertés, une toute petite phrase, la déployer en plusieurs phrases, mais pour ressortir tout le sens de cette toute petite phrase. Ça demande
un
travail de fou.
Ça
vous tordez les neurones, hein, quand vous faites ça. Mais une fois que vous avez trouvé la phrase, c'est bon, c'est bon. J'ai réussi.
La satisfaction
est complète. Ça y est, je l'ai fait.
Et vous, avant de commencer à traduire, vous aviez un peu des clichés sur le métier de traducteur, ou est-ce que... pas spécifiquement...
Non, parce que j'ai toujours été plus ou moins dans ce monde-là, en fait. Donc, moi, pendant longtemps, justement, au contraire, je me disais, je pourrais jamais traduire. Au contraire, justement, ça me paraissait quelque chose de tellement complexe, et ça l'est, hein, évidemment,
oui,
mais que ça me paraissait hors de ma portée. Je me disais, oui, je parle très bien anglais, je parle très bien allemand, je peux avoir une conversation avec quelqu'un pendant des heures dans une langue ou dans l'autre, il n'y a pas de problème. Par contre, tu me mets un livre entre les mains, puis tu me dis, vas-y, traduis. Je le savais, en fait, parce que j'avais été dans le métier, hein, mais je le savais ce que ça demandait comme complexité, ou je m'en doutais, en tout cas. Donc, pendant très longtemps, je disais, je pourrais pas traduire. Finalement, oui, parce que je me suis laissé cette chance et je me suis laissé cet espace pour essayer, pour le faire. Et puis si j'avais pas réussi, j'avais pas réussi, puis je serais passée à autre chose. Hein. C'était pas du tout une fin en soi, c'était pas du tout un but, c'était pas un rêve des années, ça m'est tombé dessus, je me suis dit « Oh tiens, ça serait pas mal », mais c'est ça en fait, moi pendant très longtemps, j'avais pas de cliché dessus en tête, mais j'avais toujours senti que c'était quelque chose de très spécial, parce que j'étais dans ce monde-là justement, et ça l'est, hein, ça s'est confirmé, mais pense
pas forcément
que...
dans le sens
non, c'est ça,
du coup.
Exactement, c'est ça.
Est-ce que vous avez un petit coup de cœur du moment que vous aimeriez nous partager?
Le roman que j'ai traduit en allemand, de l'allemand au français, donc pour Hachette, qui a été traduit en français à Ne raccroche pas. C'est un roman, c'est une romance, donc c'est pas un livre fantastique, mais c'est un roman pour jeunes adultes qui utilise très joliment cette... Alors, c'est une œuvre d'art aujourd'hui, ça ne l'était pas au tout début, mais en fait, au Japon, il y a un artiste qui avait perdu son cousin, qui avait beaucoup de peine suite à ce décès. Et en fait, pour l'aider à traverser son deuil, il a installé dans son jardin une cabine téléphonique, vraiment les vieilles cabines téléphoniques londoniennes, oui, et en fait, qui était branchée à rien. Et en fait, il décrochait le téléphone et il parlait à son cousin. Okay. Et ça l'a... Alors évidemment, on lui répondait pas, hein, mais ça l'aidait beaucoup, ça l'a beaucoup aidé à traverser son deuil. Et en fait, quand il a vu cet artiste-là, l'effet que ça a eu pour lui, il l'a offert à un parc au Japon. Et les gens, en fait, peuvent aller librement. Et aujourd'hui, il y en a plusieurs dans le monde qui ont été installés. Et les gens viennent et voilà, parlent à leurs défunts, leur disent des choses qu'ils n'ont peut-être pas eu l'occasion de leur dire quand ils sont... Voilà. Et dans le roman que j'ai traduit, c'est l'histoire donc, d'une jeune fille dont la maman est morte quand elle était toute petite. Et son papa, pour l'aider à traverser ce deuil, a installé donc, un téléphone du vent, ça s'appelle, dans leur jardin. Donc elle y va, puis elle parle à sa mère régulièrement. Et voilà qu'un jour, un garçon lui répond.
Lui répond au téléphone.
Lui répond. Et donc, au début, elle pense qu'il y a un truc, quelque chose, c'est une blague. Bon, là, il croit pas. Et puis, en fait, non, ça ouvre toute une aventure, toute une histoire d'amour très profonde pour ce garçon, pour un autre plus tard. Enfin, voilà, je vous spoile pas. Il sera en librairie à la rentrée. J'ai pas de date encore, mais c'est d'une très, très grande sensibilité. C'est très poétique, c'est très joli. Et quand je l'ai lu, j'ai eu un coup de cœur dessus tout de suite, qui a été partagé par ma collègue, heureusement. Et après ça, j'ai eu la chance de l'avoir en traduction. Donc voilà, mon premier coup de cœur, c'est pas réalisé. Le deuxième, oui, donc c'est parfait.
Hâte de pouvoir du coup le lire
bientôt. Hein. Moi aussi, j'ai hâte de le voir.
Bon, vous en avez déjà un petit peu parlé au cours de ce podcast, mais du coup, dans le prochain épisode, on va aborder le thème de l'IA.
Ouais.
Et donc il y a en littérature mm-hmm, notamment. Mm-hmm, mm-hmm. Et du coup, est-ce que vous, en tant que traductrice, quelle perception vous en avez? Qu'est-ce que vous pensez un peu des débats aujourd'hui autour
Moi, on m'a déjà posé la question. C'est vrai, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai une auteure carrément qui m'a dit « Mais vous ne vous sentez pas menacée pour votre métier, par l'IA ?» Mais pas du tout, pas du tout. Alors, la technologie va vite. Hein, si ça se trouve, un jour, on aura un truc tellement performant que... Peut-être qu'on servira plus à grand-chose, nous les traducteurs. Mais non. Parce que bah, y a eu effectivement cette histoire du petit mot subtil qu'il n'a pas su me dire. Et en fait, je pense que c'est un très bon outil si vous avez besoin d'un coup de main, mettons. Bon, voilà, vous lisez un truc, « Ah, je comprends pas ça, est-ce que tu peux me le traduire ?» Il va vous le traduire, il va vous donner le sens. Mais il va pas le transformer, vous voyez ce que je veux dire, il va pas le remanier, non, pas du tout. J'avais essayé une fois d'ailleurs pour le roman dont je vous ai parlé, parce que ça m'intriguait quand même, parce qu'on s'était revenu sur le tapis ce sujet, mais qu'est-ce que t'en penses, mais t'as pas peur, nanana. Je m'étais dit, bon, est-ce que j'ai matière à avoir peur, parce que j'en savais rien en fait, en vrai j'en savais rien. Donc j'avais donné à ChatGPT un bout de texte à traduire, voilà, bon, je lui avais donné. Bah, c'était moche. C'était mot à mot. Là, pour le coup, c'était mot à mot. Ah oui, complètement. C'était complètement littéral. C'était plat, c'était froid. Alors, c'est sûr que si, mettons, si je l'avais lu pour moi puis que je comprenais pas le sens de cette phrase, je l'aurais donné, il m'aurait aidé. Ah ok, oui, ok, d'accord, je comprends de quoi ça parle. Mais par contre, non. Je pense que si vous mettez aujourd'hui un texte d'IA à côté d'un texte de traducteur... Et ça ne vous prendra pas 3 secondes pour dire « Ah bah oui, ça c'est l'IA, parce que c'est froid, il n'y a pas d'âme, ça... voire même ça passe à côté du sens, parfois. » Donc non. Aujourd'hui, non. Après, encore une fois, tout va très vite. Hein. Peut-être que dans quelques années, ça sera... C'est parce que c'est assez impressionnant ce que peut faire l'IA aujourd'hui, hein. Ça c'est indéniable. Mais sur le côté... créativité, parce qu'une IA, si vous lui dites « Fais-moi une image où je veux ça. » Bon, ok. Elle va obéir. Par contre, si vous lui donnez un bout de texte et que vous lui dites « Alors, je veux pas que ça soit littéral, je veux que ça soit original, il faut que ça soit pour un roman. » Mais là, elle est perdue. Parce que ça demande une créativité, ça demande une sensibilité, en fait. Et la sensibilité, c'est quelque chose qui est très propre à l'humain. Oui. C'est pas propre à la machine. Oui. Donc là, aujourd'hui, non. Moi, ça me fait pas peur du tout et je pense que les éditeurs le savent. Et c'est une question parfaitement légitime. Hein. On est en droit de se la poser et puis je pense qu'on... On va être amené à se la poser de plus en plus pour toute une foule de métiers.
là où la machine peut remplacer l'homme. Aujourd'hui, d'après moi, c'est pas le cas pour la traduction. Non, et voire même pour la création de façon, même pour l'écriture. Oui. On peut pas dire à une IA, bon, mon idée de roman, c'est ça, vas-y, écris-moi ce roman. Allez, c'est... Non, ben non, ça marche pas. Elle peut vous donner des idées, elle peut être un outil, elle peut être quelque chose qui vous accompagne, qui vous... Un copain aide, d'écriture, une aide, voilà. Mais ça peut pas être l'auteur, ça peut pas être le traducteur. Non, non, non.
Très bien, bah merci beaucoup.
Bah merci, beaucoup
pour,
merci
pour
à toi.
Présence et la réponse à ces questions.
Avec plaisir.
Voilà.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be la vie en rose.
I thought that love was just a word they sang about in songs I heard. It took your kisses to reveal that I was wrong, and love is real.
Historiquement, trois pays ont toujours été des partenaires privilégiés pour les éditeurs français, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Ces trois pays ont une économie de l'édition qui est proche de la nôtre et les échanges sont donc favorables, et ils constituent par conséquent une priorité. Même si depuis les débuts des années 2000, l'Asie est souvent la première zone en termes de nombre de contrats signés. La Corée du Sud est très attentive à la production française dans tous les domaines. Aussi, contrairement aux idées reçues, c'est l'Asie qui, depuis les années 2000, est la première zone en nombre de contrats de traduction signés.
Même si un jour, à Knokke-le-Zoute, je deviens, comme je le redoute, chanteur pour femmes finissantes. Même si je leur chante Mikolasone avec la voix bandonnéante d'un argentin de Carcassonne. Même si on m'appelle Antonio, que je brûle mes derniers feux en échange de quelques cadeaux, madame, il fait ce que je peux. Même si je me saoule à l'hydromel pour mieux parler de virilité à des mémères décorées comme des arbres de Noël.
Le 27 mars, vous pourrez vous présenter à la médiathèque Michel Vauvel pour un escape game sur l'affaire Pétrarque qui allie la littérature et la chimie. Le 28 mars, vous pourrez aller à Book in Bar pour le book club anglophone autour du livre Electra. Et le 29, le lendemain, à Book in Bar, vous pourrez aussi profiter de la rencontre Poetry Corner avec le poète Pavo Magique. Merci d'avoir écouté ce podcast et à la prochaine.
And if one day I should become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue, I'd sing to them with a guitar I borrowed from a coffee bar. Well, what you don't know doesn't hurt you. My name would be Antonio, and all my bridges I would burn. And when I gave them some, they'd know I'd expect something in return. I'd have to get drunk every night and talk about virility with some old grandmama who might be decked out like a Christmas tree. And though pink elephants I'd see, though I'd be drunk as I could be, still I would sing my song to me about the time they called me Shaggy. If I could be for only an hour, if I could be for an hour every day, if I could be for just one little hour, a cute jilt in a stupid ass way.
And if I joined the social world, became procurer of young girls, then I would have my own bordellos. My record would be number one, and I'd sell records by the ton, all sung by many other fellows. My name would then be Handsome Jack, and I'd sell boats of opium, whiskey that came from Twickenham, authentic queers and phony virgins. If I had banks on every finger, finger in every country, and all the countries ruled by me, I'd still know where I'd wanna be. Locked up inside my opium den, surrounded by some Chinamen, I'd sing the song that I sang then about the time they called me Shaggy. If I could be for only an hour, if I could be for an hour every day, if I could be for just one little hour, a cute, cute in a stupid ass way. Now tell me, wouldn't it be nice that if one day in paradise I'd sing for all the ladies up there, and they would sing along with me, we'd be so happy there to be, cause down below is really nowhere. And if my name were Juniper, then I would know where I was going, and then I would become all-knowing, my beard so very long and flowing. If I became deaf, dumb and blind, because I pitied all mankind and broke my heart to make things right, I'd know that every single night. When my angelic work was through, the angels and the devil too would sing my childhood song to me about the time they called me Shaggy. If I could be for only an hour, if I could be for an hour every day, if I could be for just one little hour, a cute, cute in a stupid ass way.